Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Sabine Caz.
Vivante Église, où je reçois aujourd'hui Frigide Barjot à l'occasion de la sortie de son livre « Qui suis-je pour juger ? Confession d'une catho républicaine » paru aux éditions Salvator. Âgé aujourd'hui de 51 ans, vous avez fait, Frigide Barjot, des études de droit et de Sciences Po. Vous avez travaillé avec l'équipe de Jacques Chirac, ainsi qu'à la télévision. Vous avez écrit des livres humoristiques, on se souvient du « J'élève mon mari ». En 2009, vous vivez une conversion dans la foi catholique que vous avez racontée dans « Confession d'une catho branchée » publiée chez Plon. C'était en 2011. Vous vous engagez lors des élections présidentielles de 2012 avec pour objectif de réveiller les catholiques face au programme de François Hollande concernant notamment la filiation et l'euthanasie. En septembre 2012, vous créez le collectif Manif pour tous avec Xavier Bongibaud, Laurence Cheng, Ludovine de la Rochère et Albéric Dumont qui aboutit aux manifestations que l'on sait. En mai 2013, c'est la rupture entre vous et la Manif pour tous autour de la question de l'union civile en mairie pour les couples homosexuels. Vous créez l'Avenir pour tous et vous poursuivez le combat, notamment concernant la filiation. Votre livre « Qui suis-je pour juger ?» est une relecture de ce qui a été vécu en France autour de la loi Taubira. Vous y réglez certes quelques comptes, mais vous y faites aussi, et sans doute surtout, une analyse politique et spirituelle de la mobilisation qui s'est levée et que personne n'attendait. Et vous y affirmez que vous n'entendez pas la déserter, prête à travailler et à retravailler avec tous ceux qui portent les mêmes objectifs concernant la protection de la filiation. Cette relecture du passé, Frigide Barjot, vous dites vouloir la faire avec justice et miséricorde. Et pour commencer, je vais juste décliner les mots que vous employez. Vous la lisez comme une Pentecôte, comme un exode, comme une traversée de la mer et comme un événement des rameaux. On va commencer peut-être par la Pentecôte. En quoi s'agit-il d'une Pentecôte ?
Eh bien, écoutez, c'est comme on se retrouve au temps de la Pentecôte, quand tout d'un coup, les apôtres, frappés par l'Esprit Saint, n'ont plus peur et sortent pour annoncer à tous ces gens qui ne parlent pas la même langue, qui viennent de tas d'autres pays, que il y a quelque chose qui nous rassemble au-delà de nos différences, qui nous rassemble au-delà de nos cultures, au-delà de nos orientations, eh bien c'est la dignité, la sacralité de la personne humaine.
C'est audacieux de voir ça comme une Pentecôte.
Bah, c'est ce qui s'est passé notamment à partir du 17 novembre et du 13 janvier, parce qu'une Pentecôte c'est aussi une théophanie, enfin c'est montrer une épiphanie, c'est montrer un sens supérieur par un rassemblement, par quelque chose de spectaculaire. C'est spectaculaire. Alors, ils parlaient tous dans leur langue et ils se comprenaient au jour de la Pentecôte, mais nous avons trouvé un langage commun pour dire aux gens, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, face à une loi qui nous disait autre chose. C'est-à-dire, c'est aussi trouver un langage qui est rassemblé au-delà du message, qui était quand même une sorte de ruse, et qui cachait le vrai danger, le vrai risque qui était qui est dans la loi. C'est le risque de changement de l'engendrement humain et le fait qu'il ait été couvert par un message de la part des autorités et des porteurs de la loi qui était « mais il faut donner une égalité à tout individu et à tout être humain, quelle que soit son orientation sexuelle ». La Pentecôte, c'est que les gens ont compris le message subliminal, vous comprenez ? Et ça, c'est un peu comme Pierre sort sur le balcon et qu'il dit « Voilà, nous avons à vous révéler une vérité, vous êtes aimés, il n'est pas mort, suivez-nous, voilà, la vie est plus forte que tout ». Et bien là, nous disions d'une certaine façon, la personne humaine est plus... doit être respecté au-delà de tout. Et ça a marché, puisque le 13 janvier, eh bien, on a vu ces foules considérables que personne n'attendait. C'est ça, la Pentecôte. C'est cette façon dont tout le monde, le président de la République le premier, sont restés complètement abasourdis devant le phénomène du 13 janvier sur le Champ de Mars à Paris.
Et ce qui contribue à vous permettre de faire cette lecture, c'est la joie.
Et la paix.
La joie et la paix qui étaient un des signes patents de ces manifestations. Beaucoup de monde et des gens très calmes et très paisibles et très joyeux de se retrouver.
Tout à fait, c'est ça qui a aussi, je pense, le plus ennuyé le pouvoir, c'est qu'il s'attendait à avoir une catégorie de gens très vindicatifs pour les traiter de réactionnaires et pour les traiter immédiatement, si vous voulez, leur coller une étiquette venant de leur religion avec une violence qui serait à coller, et ils ont eu tout l'inverse. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui disait que notre démarche dépassait notre intérêt personnel. Nous avions quelque chose qui nous dépassait dans la cause qui nous mobilisait, qui nous rassemblait, qui nous faisait marcher ensemble. Et encore une fois, c'est le sens non pas de notre propre personne ou de notre individualité, mais de toute l'humanité à venir.
Alors, vous prenez une seconde image biblique avec ce terme de l'Exode, qui effectivement rappelle l'Exode vers la Terre promise, et vous parlez, les catholiques sont sortis. D'où sont-ils sortis ?
Mais ils sont sortis des catacombes ou de l'enfouissement.
Développez un petit peu, parce que vous allez évoquer dans votre livre quatre sorties.
D'un Pentecôte.
Enfouissement, spiritualisme, laïcisme intériorisé, individualisme et intimisme familial. 5.
Oui.
Développez un peu ces sorties.
Bah alors écoutez, la première, donc nous sommes sur la sortie du laïcisme, qui a été... Donc en fait, on va se resituer à Vatican II. Tout a basculé, et heureusement, à Vatican II. Et j'en profite pour rappeler que nous fêtons juste les 50 ans, hein, et que ça, le pape Benoît XVI en a fait une année de la foi. Donc, on arrive au bout de 50 ans, justement, à une sorte de maturité de Vatican II. Vatican II, c'est quoi ? C'est le dialogue au monde, la conversation aimable avec le monde, pour que l'Église ne reste pas enfermée sur elle-même, mais qu'elle ne tombe pas non plus dans ce qui a été une première partie de Vatican II, le laïcisme, justement. C'est-à-dire qu'on a voulu tellement aller dans le monde qu'on en a oublié la spiritualité, le spiritualisme. Trop de spiritualisme, peut-être d'avant, ou de religiosité, a fait basculer dans du laïcisme. C'est-à-dire que on allait, et ça a donné les prêtres ouvriers, ça a donné l'immersion dans les classes les plus pauvres et les plus miséreuses, oui, et déchristianisées. Mais le problème, c'est qu'en face, vous aviez les idéologies communistes et matérialistes. Et donc, il y a eu une espèce de mainmise de l'idéologie communiste sur certains de nos prêtres. Je suis désolée de le dire aussi crûment
sur
à l'antenne.
Certains d'entre eux.
Mais bien sûr, certains d'entre eux. Donc, si vous voulez, ça a donné la théorie de la libération. Aussi, après, de passer carrément à la cause des combattants, et qui justifie, par exemple, le recours à la violence. Et le pape Jean-Paul II l'avait combattu parce qu'on a épousé, finalement, trop de laïcité et trop d'idéologie déspiritualisée. Voilà. Et alors ça ensuite... Comme il y a eu un... Il y a eu... C'était notamment... Il y avait des mandats qu'on donnait... À des laïcs qui avaient un mandat d'église, mais de ce mandat, ils en ont fait du laïcisme. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de recul.
C'était aussi la théorie de l'enfouissement, du levain dans la pâte, qui apportait à la fois des fruits et puis des difficultés, ça c'est certain.
C'est ça. Alors, Bah, surtout par rapport à l'évangélisation, si vous voulez. Cet art subtil d'évangéliser en ne disant rien, en ne disant pas qui on est, ça n'est pas simple. Donc, on passe, donc vous le dites, à l'enfouissement. Et puis, en réaction... Donc, alors, l'enfouissement, on rentre dans la société et on enlève toute notre identité chrétienne. Et on dit seul notre témoignage d'amour, de charité beaucoup, avec ce risque d'avoir tellement enlevé le Christ, que d'autres, des idéologies viennent prendre la place de notre foi. C'est ça dont on parle, hein, nous ne sommes pas une idéologie, nous avons une foi, nous vivons concrètement avec un Dieu vivant. Alors donc de cet enfouissement que nous avons vécu jusqu'à récemment, il est né quand même des nouvelles spiritualités.
Hein. Ah oui, il y a près de 30 ans maintenant, dans les années 70.
Voilà, hein. C'est les communautés nouvelles.
40.
Voilà,
ça
c'est les communautés nouvelles. Alors moi, j'ai pas tout mon plan en tête. Dites-moi donc les autres sorties.
Oui. On va y revenir. On va, si vous le voulez bien, s'arrêter quelques instants, Frigide Barjot, et puis on y revient. Je rappelle que nous parlons de votre livre tout récent, Qui suis-je pour juger ? Confession d'une catho républicaine, et c'est aux éditions Salvator.
Présence.
Le désert est passé sans une gorgée d'eau. Ma main comme un sablier retient le sable chaud. 40 jours fatigués sans une bouchée de sorgho. Longue est la traversée jusqu'à la mer des roseaux. Jusqu'à la mer des roseaux. J'ai tellement marché que j'ai usé ma peau. J'ai tellement cherché, je n'ai plus de repos. Sur mon épaule, un ange s'est posé sans un mot. Et mes mains dans le soir cueillent les étoiles là-haut. Des pleines poignées d'oiseaux.
Vivante Église.
Frigide Barjot, je rappelle que vous venez de publier un livre qui s'intitule « Qui suis-je pour juger ?» et on a commencé à revenir sur l'analyse que vous y faites de tout ce qui a été vécu autour de la Manif pour tous et de la loi Taubira. Et vous avez évoqué une Pentecôte qu'ont vécu les catholiques, qu'a vécu la France avec toutes ces manifestations.
Le 13 janvier surtout, la Pentecôte première, c'est le 13 janvier sur le Champ de Mars. Et il y en aura une deuxième, ou la sortie de l'Exode, hein, c'est ça, c'est du 24 mars, sur l'avenue de la Grande Armée.
Alors, vous évoquez donc aussi l'Exode, il y a une lecture un petit peu biblique de tout ce qui a été vécu, tout à fait biblique, et vous parlez donc de sortie, vous avez dit, les catholiques sont sortis du laïcisme, sont sortis de l'enfouissement, ils sont aussi sortis du spiritualisme.
D'une certaine forme, encore une fois.
Alors, dites-nous.
Il faut rester nuancé en toute chose. Hein. Et encore une fois, ça n'est pas un règlement de compte. Je reprends un peu vos propos au départ.
Vous réglez quelques comptes, mais c'est pas le premier objectif de votre
Mais c'est surtout pas ça, parce qu'en fait, nous faisons partie d'une même immense fraternité qui... Nous la reconnaissons entre nous chrétiens, mais nous l'avons quand même... élargi dans ces manifs, ou en tout cas dans cet objectif des manifs, d'abord à l'œcuménisme, les protestants étaient là.
À l'interreligieux.
Et à l'interreligieux. Donc là, je rejoins ce que je vous disais avant sur les objectifs de Vatican II, nous sommes en plein dedans, nous les avons vécus concrètement aussi. Alors, un certain spiritualisme, ce sont ces communautés nouvelles qui se sont créées en réaction au laïcisme. et qui ont énormément. Alors elles sont revenues à une vie sur les temps premiers des temps des chrétiens, des premiers chrétiens.
On a d'ailleurs parlé d'une nouvelle Pentecôte pour l'Église.
Tout à fait. Mais c'est vrai qu'elle est une Pentecôte, et elle l'est toujours. On pense évidemment aux communautés de l'Emmanuel, on pense au chemin néo-catéchuménal.
Les communautés charismatiques.
Les charismatiques, voilà, qui reprennent, alors comment, à la Pentecôte, ces prières en langue, qui m'ont accueilli d'ailleurs, hein, toute communauté qui m'ont accueilli il y a 2 ans avec mon livre Confession d'une catho-branchée. Et le fait étant qu'ils ont été à nouveau un creuset, un foyer de résurgence de la foi, de reprendre véritablement pied au plus proche de l'écriture et au plus proche de l'oraison, de la prière, partagée.
Mais et de la ça, vie ça, commune, hein, de la
et de vivre ensemble, voilà. Et dans la commune. Mais la communauté, elle a des limites. Mmh. C'est sa communauté. Vous comprenez? Et là aussi, à un moment, on retombe encore dans l'enfermement. Enfin, on retombe. On peut y vivre du moment qu'on sache ressortir de cet enfermement. Et c'est ce qui s'est passé. Car ces communautés, d'ailleurs, comme les paroisses, ces communautés ont été des artisans majeurs de la mobilisation. Elles ont amené beaucoup de gens, elles ont amené énormément, elles ont mis des moyens, elles ont mis d'abord des moyens de communication, elles ont mis... Donc d'une certaine façon, elles ont fait elles-mêmes leur ouverture au monde. On a vécu tous cet élan vers l'autre, vers les autres, vers ces périphéries existentielles auxquelles nous appelle le pape François.
Et on est aussi sur le terrain, vous l'évoquez, la sortie de l'individualisme.
Oui, alors c'est exactement ça, que ça soit la communauté qui vit en communauté, crée un individu communautaire, et puis la sortie de l'individualisme de chacun vivant, en fait, finalement, en dehors des communautés, dans son propre individu personnel. Et la loi Taubira n'est rien d'autre que la consécration de l'individualisme, en réalité, sous prétexte de donner un droit d'égalité à un couple, il donne le droit à chaque être humain de décider de la naissance, enfin de la venue au monde d'un autre être humain. C'est vraiment l'oméga, l'alpha et l'oméga de l'individualisme. Donc nous voulons sortir de ce fondement même d'une société qui ne serait plus que l'individu et alors, non pas la personne humaine.
Et on reviendra sur le combat que vous entendez poursuivre. On termine avec la dernière sortie que vous évoquez, l'intimisme familial. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, c'est que notre Église, et à juste titre, dit que la cellule première de la société... Et évidemment la famille. Mais elle conçoit la famille comme une entité, là encore, une communauté, une Église première, la famille nucléaire, l'Église première, et puis c'est la première, c'est le premier foyer, la première Église. Mais elle nous invite aussi, depuis Vatican II, depuis Jean-Paul II, à vivre cette famille comme acteur de la société. Et c'est ça, sortir de l'intimisme familial. Et de devenir famille telle qu'elle témoigne de son unité familiale, de son unité de filiation, dans son unité d'engagement et de fidélité, et de son unité d'éducation, bien évidemment, il y a toute la problématique de l'éducation, mais comment elle-même dans la société est un acteur social, et comment elle va auprès du reste de la société témoigner de sa propre performance. Qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres modes d'organisation, mais qu'on doit tendre à ce mode de performance, à cette performance qui est le lien premier, qui est le lien social, avant tout lien social.
Vous évoquez aussi, en continuant à traverser cette lecture biblique des événements, les rameaux.
Ben les rameaux, c'est ce qu'on a vécu, cette acclamation. Alors, je prends peut-être de façon un peu exagérée, Mais que voulez-vous ? Il faut bien qu'à un moment, on parle de ce qu'on a vécu. Hein. Mon propre cheminement dans ces immenses cortèges de foules qui ont commencé le 17 novembre, mais encore à nouveau, je vous reparle, parce que vraiment, l'apothéose, c'est pour moi, c'est le 13 janvier. C'est l'apothéose où il n'y a pas encore de violence, si vous voulez. On est dans la paix absolue, la joie absolue, la fraternité absolue des familles qui tendent la main aux individus qui ne sont pas en famille, aux individus différents, aux homosexuels qui étaient venus, aux musulmans. On est dans la fraternité incarnée hein, sur ce champ de Mars, devant la tour Eiffel, là où le pape lui-même, je parle du pape Jean-Paul II, était venu en 97, exhorter justement les chrétiens à montrer le chemin du Christ. Et quelques années, ça fait combien de temps entre 97 et 2013 ?
Ça fait 16.
16 ans. Bah 16 ans après, d'une certaine façon, que certains me pardonnent s'ils trouvent que c'est très exagéré, mais c'est une façon de le vivre quand même. Nous, quand j'ai remonté ce champ de Mars depuis l'école militaire, J'étais complètement subjuguée par des gens qui criaient merci, bravo, les larmes aux yeux. Est-ce des larmes de froid ou des larmes de joie? Parce qu'ils attendaient quand même depuis des heures des dames qui étaient vraiment d'un certain âge. Ils avaient traversé la France du fin fond là de vos contrées. Ils étaient remontés. On en a vu hier soir à la conférence que j'ai donnée. Eh bien, je leur disais, mais ça n'est pas... J'étais gênée, ça n'est pas moi. Quand ils acclamaient Jésus sur son ânon, il était tout modeste sur son petit âne. Nous, on marchait avec nos pieds nus, ou nos baskets. Et je leur disais, vous ne nous acclamez pas, ni moi, ni Xavier. Mon frère était à côté, il disait, mais ils vont te toucher, tu vas guérir les écrouelles. J'ai dit, bah non, justement. Vous n'acclamez pas, nous. Vous avez besoin d'avoir une image, d'avoir une incarnation, enfin une personnification. Mais vous acclamez vous. Applaudissez-vous vous-même. Vous acclamez ce que vous êtes, ce que vous portez comme valeur, ce que vous portez comme message de la personne humaine. C'était l'acclamation de la personne humaine, telle que personne ne peut prendre la main sur elle. Pour nous croyants, parce qu'elle vient de Dieu, pour les non-croyants, parce qu'ils savent que si on commence à toucher à la personne humaine, demain, ça n'est plus une personne humaine. C'est un objet lâché sur le marché de la commercialisation et de la fabrication.
Frigide Barjot, on s'arrête quelques instants.
Présence. J'ai soif d'amour.
Vivante Église.
Et dans cette émission où je rappelle que je reçois Frigide Barjot et que nous revenons sur l'analyse que vous faites de tous les événements que vous avez, que un nombre certain de Français ont vécu. Vous en avez parlé dans un livre publié récemment aux éditions Salvator qui s'intitule « Qui suis-je pour juger ? Confession d'une catho-républicaine ». Comment est-ce que cette aventure a traversé votre foi ? Vous avez vécu une conversion en 2009 et vous ne la cachez pas. On sent que la foi pour vous, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Or, à la fois, vous avez sans doute dû être la première surprise par l'ampleur qu'ont prise des événements, et puis il y a eu cette rupture avec la Manif pour tous, rupture qui est actuelle toujours. Ça n'a pas dû être simple.
Mais c'est expliqué dans le livre.
Justement, donc voilà. On n'y reviendra pas nécessairement en tant que tel dans cette émission. Vous avez eu du courage, c'est une évidence, parce que vous avez eu beaucoup d'ennuis, d'insultes, de mobilisation contre vous. Comment ça, ça a traversé votre foi et est-ce que ça l'a transformé, modifié, renforcé qu'est-ce que vous pouvez nous dire là ?
Mais écoutez, ça n'aurait pas pu se faire sans la foi. C'est un acte de foi. Nous avons posé un acte de foi, mais nous avons posé un acte de foi au lieu qu'il soit individuel, comme nous en parlions tout à l'heure. Nous sommes sortis de l'individualisme. Nous avons fait un acte de foi collectif. Et avec des gens pas religieux. Mais c'est un acte de foi en la personne humaine. Donc ça n'a pu évidemment qu'être un signe majeur qui a renforcé ma foi. À cela, j'ajouterais qu'en tant que chrétienne, catholique, le mot persécution n'est pas trop fort pour moi, hein, vu ce que je vis aujourd'hui. Ce que j'ai subi, et ce que je subis surtout aujourd'hui. Parce que quand j'étais en haut, prendre les coups, eh bien, c'était la position, j'allais dire, très exposée, que je n'ai pas choisie, je tiens à le dire. Hein. Je ne sais pas moi qui suis allée me battre dans les médias pour être la première. Je l'ai bien expliqué encore une fois à la conférence organisée par Face à Face hier. Ce n'est pas, ça n'est pas ma demande. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Les médias ont compris que c'était ça qui les faisait vendre. Donc ils m'ont mis en avant. En même temps, ça apportait la cause. Donc c'était important. Là que je prenne les coups de l'adversaire, du camp opposé, c'est-à-dire de l'idéologie qui s'oppose à nos valeurs chrétiennes, c'était logique. Ce qui est moins logique, c'est que maintenant que je suis redescendue, pour divergence de vue aujourd'hui, d'autres s'acharnent aussi, ça vient de tous les côtés. On s'acharne sur la victime, si vous voulez. Ben, c'est christique, d'une certaine façon. Il y a un moment, il faut vivre la croix. Voilà. Et tout le monde me lit, on m'a dit, ben, écoute, à un moment, c'est toi qui retourneras au désert, tu iras au désert, et puis tu as la foi, donc la résurrection se fera, au sens, je suis toujours évidemment dans l'allégorie, hein, enfin dans l'image, mais...
Le mystère pascal.
C'est ça, le mystère, mais on vit ça, hein, on était au rameau. Bah, écoutez, là, on est en train de faire une longue semaine sainte, et mais pas tant que ça, hein, parce que déjà, on a des prémices, les gens commencent déjà à force de retrouver des moments et des temps de parole comme vous nous le permettez là, hein, c'est très important de pouvoir dialoguer, parler, comme il y a déjà dans le Figaro magazine de ce week-end un article avec un débat avec Chantal Delsol. Nous confrontons nos positions avec les gens qui n'ont pas tout à fait la même vision pour la suite. Enfin, eh bien, à partir de là, dans le débat, le dialogue, comme le dit Vatican II, comme le dit le pape François, émerge la possibilité de l'espérance. Vous comprenez? Et politiquement, de l'efficacité politique. Donc, si vous voulez, oui, ma foi est doublement renforcée. Par le signe collectif, et aujourd'hui, par le temps d'assèchement, par le temps le temps difficile, le temps véritablement de sécheresse, mais qui est porteur du... Il y a un travail qui se fait. C'est un enfouissement pour ressurgir. Rien n'est linéaire, surtout quand vous êtes en plus dans un monde de pouvoir, un monde qui vit avec d'autres règles. Les règles étant des règles, je suis désolé, injustes. Et nous, nous essayons d'avancer avec des règles justes. Dire ce que nous faisons, faire ce que nous disons, ne pas accabler celui qui ne pense pas comme nous. Et donc, ce que j'appelle la pole éthique, faire de la politique éthique. Mais éthique jusque dans ses modes d'expression, ses modes de gouvernance. Ne jamais mentir.
Vous affirmez dans le livre... Et vous le dites, vous tendez la main.
Bien sûr.
Vous tendez la main, j'ai envie de dire tous azimuts, avec vos collaborateurs d'hier qui ont pris une autre orientation, avec vos adversaires...
Pour le dialogue.
Pour le dialogue.
Nous venons de lancer une pétition au nouveau ministre de l'Éducation, parce qu'il n'y a plus de ministre de la Famille, comme vous avez pu le voir, au nouveau ministre de l'Éducation nationale, parce que dans notre problématique de remplacer l'altérité sexuelle par l'orientation sexuelle qui s'appelle le genre, en fait, la loi de genre, il y a cette initiation dans les écoles à travers les ateliers des
ABCD
de l'égalité, qui sont en soi l'égalité, évidemment, qu'il faut y travailler, évidemment, qu'il ne faut pas de stéréotypes pour qu'ensuite un des sexes impose une domination sur l'autre, sur la femme. Mais on sait très bien que là aussi, sous couvert de cette juste lutte, il y a en fait une volonté de remplacer les sexes par l'individualisme de l'orientation sexuelle, du désir d'être un sexe indifférent, indifférencié. Bien, eh bien, nous demandons à Monsieur Hamon, est-ce que aujourd'hui il est prêt à suspendre la mise en place des réformes des rythmes scolaires pour pouvoir suspendre les ateliers périscolaires et qu'on rediscute ensemble. Mais ensemble, c'est parents d'élèves, associations de parents d'élèves, associations familiales et personnel pédagogique. Nous avons mis en place une pétition en ce sens, pourtant pour dialoguer avec le pouvoir. Mais dialoguer aussi, comme nous le faisons avec Chantal Delsol, qui porte les présupposés de la manif pour tous dans sa pensée, dans sa vision de la société. Dialogue avec Chantal aujourd'hui dans le Figaro Magazine.
Ce souci de dialogue avec tous, y compris avec vos collaborateurs d'hier de la Manif pour tous, c'est pour rassembler les troupes, c'est aussi parce que vous pensez que c'est ça qui est pertinent pour essayer d'avancer et d'obtenir...
Mais c'est ça qui a marché. Déjà, dans la réalisation de la mobilisation. Nous vivons en démocratie, chère Sabine, ça ne vous a pas échappé. Donc, la décision politique se fait à la majorité. Nous ne pourrons pas revenir sur les fondements de la loi Taubira, encore une fois, en ce qu'elle change la filiation humaine, donc l'engendrement humain, donc l'ouverture à la fabrication de l'être humain, si nous n'avons pas la majorité. Or, nous l'avons en France. Nous sommes majoritaires. Mais nous ne serons pas majoritaires si nous ne montrons pas un dialogue entre personnes qui sont les dirigeants de chacun de ces courants, si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs courants aujourd'hui. Et si certains veulent prendre l'ensemble de la base en prétendant représenter tout le monde, alors qu'aujourd'hui ça n'est plus vrai, eh bien évidemment ça marchera pas. Si nous acceptons de dire nous sommes plusieurs courants qui portons chacun une vision différente mais nous voulons le même résultat, et que nous acceptons le résultat étant de revenir à une filiation biologique unique inscrite dans la Constitution, comme ça on n'y touchera plus, dans le mariage homme-femme, comme ça on ne touchera plus à l'altérité sexuelle. Mais que pour cela, il faille admettre qu'il y ait une loi d'union civile pour les couples de même sexe, parce qu'elle existe. Elle est dans les lois de la République aujourd'hui, tout simplement. Et que la société française actuelle, dans son opinion générale, dans l'opinion publique, n'acceptera pas qu'on enlève ses droits d'union des adultes.
C'est un combat,
hors filiation.
C'est un combat politique.
Bien sûr, éminemment politique. pour ce que la politique organise la cité, et que la cité, c'est l'organisation des êtres humains, des personnes entre elles.
Par rapport à la laïcité ambiante, qu'est-ce que vous avez comme conviction concernant la partie prise par les catholiques à l'intérieur de cette société qui, encore une fois, est une société laïque et sur laquelle on ne va pas revenir sur sa laïcité?
Certainement pas, puisque Dieu lui-même la veut. C'est Jésus qui nous a pris la laïcité. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, comme c'est Jésus qui nous l'a montré, c'est un de ces vicaires qui nous l'a, moi qui me l'a bien fait comprendre, enfin en tout cas qui m'en a donné une lecture qui me semble tout à fait pertinente, qu'on soit croyant ou non croyant. C'est ça, hein, c'est pour faire vivre les croyants et les non croyants ensemble. Il s'appelle Benoît XVI et il faisait ça pour c'était l'homélie de la messe du congrès du premier congrès de la nouvelle évangélisation en 2011, où il a fait une lecture de rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, en nous disant si Dieu est sur si César est sur la pièce de monnaie, vous avez l'effigie de César, vous savez de quoi il s'occupe, du temporel, de l'économique, de la richesse matérielle, de ce qui ne dure pas, mais qui fait vivre l'être humain parce qu'il a une contingence matérielle. Mais Dieu, il est là, puisque sinon il n'y aurait pas l'être humain, il n'y aurait pas César. Donc Dieu, où est-ce qu'on voit son effigie? Sur vous, chrétiens. Donc montrez l'image de Dieu à César, pour que César ne se prenne pas pour Dieu. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons. Nous avons, nous chrétiens, aujourd'hui, nous catholiques, à respecter absolument ce principe de laïcité. Sinon, nous nous ferons refouler dans l'intégrisme et dans le fondamentalisme. Mais nous devons exister selon les règles républicaines, selon les règles de vivre ensemble républicains, en disant démocratiquement, c'est-à-dire à la loi de la majorité, à César, président de la République Hollande, nous sommes aujourd'hui la majorité et nous ne voulons pas que vous transgressiez ce qui est donné au-delà de vous-même, ce qui est une règle qui vous dépasse, cette loi naturelle sur laquelle personne n'a prise et auquel vous ne devez pas déroger. Enfin, c'est ce qui est au fond de notre conscience. C'est le mouvement des consciences, en fait, que nous avons levé, la conscience rassemblant le croyant et le non-croyant, celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas.
On s'arrête quelques instants, Frigide Barjot.
Présence.
Jésus,
Vivante Église.
Brigitte Barjot, on revient sur ce combat que vous entendez poursuivre, alors même que la rupture avec la Manif pour tous s'est faite. La pierre d'achoppement, c'est l'union civile. La Manif pour tous n'en veut pas, vous pensez qu'elle est nécessaire. Pourquoi, alors que on a beaucoup cherché à défendre le mariage, pourquoi est-ce que vous... On a
le mariage...
Vous transigez.
Non.
Est-ce que vous transigez?
Non, bah, c'est pas un mariage au rabais. C'est pas un mariage. Le mariage est le mariage. Le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme en vue de du renouvellement des générations, de la procréation de l'être humain, de sa liberté, de l'égalité de chaque être humain devant sa venue au monde. Ça n'est pas un être humain qui prend le pas sur un autre être humain à venir. Vous comprenez ? Oh, mais par ailleurs, il est donné... il est donné... dans la nature humaine, une part de son orientation sexuelle qui est à peu près la même depuis 2 millions d'années, qui est donnée à 5% de l'humanité et qui est que certains ne peuvent pas aller sexuellement vers le sexe inverse pour se reproduire. Voilà. Faut-il pour autant... Aujourd'hui, dans l'état actuel de l'évolution de notre société, et encore une fois, maintenant que la loi est passée, c'est ça que je voudrais bien faire comprendre à vos auditeurs, la loi, elle s'applique. Quels sont les arguments, à part ce religieux, hein, qui viennent de la Bible, du Coran, de la Torah, pour dire, deux hommes, aujourd'hui, dans la société, peuvent pas vivre ensemble? Oh, pardon. On va la refaire.
Vous réenchaînez et puis je couperai. Deux hommes dans la société ne peuvent pas vivre ensemble. Vous pouvez enchaîner ?
Oui, bien sûr.
Voilà. Allez-y.
Quelles sont les raisons pour lesquelles, à part des raisons religieuses venues de la Bible, du Coran, de la Torah, deux hommes ne peuvent pas vivre, ou deux femmes bien évidemment, ne peuvent pas vivre ensemble dans la fidélité, dans l'assistance, dans le secours et pouvoir avoir des droits sociaux et des droits institutionnels de reconnaissance. Aujourd'hui, la société n'en voit pas. Donc ce sont donc une problématique religieuse qui s'impose. Je tiens à dire deux choses quand même.
Donc, elle...
Oh. Désolée, il faudrait peut-être que j'enlève le son. Voilà, oui.
Oui, mais alors attendez... Donc, le débat, c'est un débat religieux. Or, nous sommes dans une société laïque.
Tout à fait. Vous venez de donner exactement la réponse à ce qui nous sépare aujourd'hui. Pourquoi ça a marché pendant 8 mois, de septembre 2012 à mai 2013, c'est-à-dire 9 mois, le temps d'une gestation justement, le temps d'un accouchement. Eh bien parce que ce mouvement a été monté d'une part par des gens venus de la société civile au sens non religieux, c'est-à-dire moi une convertie mais qui vivait quand même dans le monde totalement non religieux, Xavier Bongibaud non religieux, en plus non croyant et homosexuel, Laurence Cheng plutôt d'une tendance de gauche sociale, croyante mais vivant en ZEP, institutrice, bien. Et puis à côté, on s'est associé avec des gens qui étaient organisés, mais qui eux viennent du monde religieux. La Fondation Le Jeune, Alliance Vita, La Marche pour la Vie, Albéric Dumont. Alliance Vita, si je l'explique dans le livre, vous verrez, Tuc de Allerville est là au départ, puis il est plus là, mais les réseaux Vita ont fait le réseau Manif pour tous. Bien. Ces gens, toute la première partie de la construction du mouvement, savaient que j'étais pour l'union civile. Je leur en ai parlé maintes et maintes fois, jusqu'à Christine Boutin au PCD, qui était une autre voix qui parlait plus loin, pas dans la manif, mais dont on savait qu'elle représentait les catholiques. Ils ont tous dit « ok » à l'époque. Il faut savoir qu'il y a eu un moment, on te laisse être pour et on n'est pas contre. Et au vote de la loi, bah, ils ont été contre. Voilà, il faut bien voir cela. Deuxièmement, je vous dirai encore une fois qu'il y a une personne qui est en église, dans l'église, qui s'appelle le pape François, et qui était l'archevêque Bergoglio, qui a été confronté à la même loi de mariage, c'est-à-dire d'ouverture à la procréation artificielle, la procréation hors relation homme-femme. Quand cette loi a été proposée en Argentine, c'est lui, l'archevêque argentin, qui est allé voir les députés d'opposition aux socialistes en leur demandant de remplacer la loi par une loi d'union civile sans adoption et sans procréation. Ce pape, c'est le pape François, qui est en train de travailler au synode
sur la famille
pour une évangélisation, on en revient à ce qu'on disait, sortir de l'intimisme familial, c'est-à-dire une évangélisation par la famille. Eh bien, il a intégré dans les questions qu'il a envoyées à tous les diocèses pour préparer le synode, il a fait une très large consultation, des questions qui concernent les enfants élevés dans des cas d'union homosexuelle, reconnus ou pas reconnus. Maintenant, elles sont totalement reconnues. Donc, il est bien ouvert à ce questionnement. Et je prendrai enfin, et j'en prends exemple, j'en prends référence dans mon livre, à la conférence Famille et Société, qui a fait des notes en septembre 2012, qui n'exclut pas du tout de pouvoir réfléchir aux droits qu'on pourrait donner aux personnes qui vivent dans un engagement et qui font du lien social dans la société, un engagement entre personnes qui peuvent leur permettre, s'ils sont chrétiens et catholiques, de vivre dans une amitié, un amour d'amitié, et s'ils ne le sont pas, bah, qu'est-ce que vous allez leur imposer de ne pas avoir de relations sexuelles? C'est un cadre qui peut permettre les deux, parce que de toute façon, devant la procréation, ils sont dans un autre statut que le couple procréatif.
On imagine que le combat ne va pas être simple parce qu'il faut...
C'est de la pédagogie.
Il faut revenir sur une loi. En même temps, vous pensez plus facile ou moins difficile d'obtenir cette révision de la loi dans ce sens-là que l'abrogation pure et simple?
Ah ben l'abrogation pure et simple, c'est, je vous dis tout de suite, c'est une abrogation même du combat politique. C'est-à-dire que personne n'acceptera, personne même dans la future majorité, n'acceptera de réenlever les droits ouverts aux personnes de même sexe dans leur union. Donc de toute façon, aujourd'hui, ça n'est... D'ailleurs, on le voit bien, quand la demande est trop radicale, on obtient l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que si on demande à supprimer les droits d'union... sous prétexte d'enlever les droits d'ouverture à l'engendrement, on enlèvera les droits d'union des couples adultes de même sexe, et à partir de ce moment-là, les gens qui demanderont ces intermédiaires citoyens que nous sommes, s'ils apportent cette seule demande d'abrogation, ils pèseront politiquement, mais de moins en moins, parce qu'ils seront de plus en plus étroits à demander ça, parce que plein de gens, même chrétiens, se rendent parfaitement compte que c'est irréaliste aujourd'hui. Et donc, le personnel politique qui les représentera aura peur et fera ce qui a été fait sur la loi de détresse d'IVG, carrément, abandonnera le champ politique, enfin, n'ira pas voter, s'abstiendra ou fera passer carrément la loi inverse. Donc nous aurons la loi de mariage et de filiation ouverte ad vitam aeternam.
Frigide Barjot, dernière question. Pourquoi avez-vous intitulé votre livre « Qui suis-je pour juger ?»
Je viens de vous répondre à la question parce que le pape François lui-même a fait cette phrase à destination, a donné cette phrase à propos des personnes homosexuelles dans l'avion de Rio du 30 juillet 2013 quand il revenait des JMJ. Et j'ai la citation, j'ai mis trois citations des papes en commençant, nos trois papes qui sont aujourd'hui, on en a encore deux vivants, c'est extraordinaire, et un canonisé très prochainement. Donc en fait, on vit dans une trinité des papes. Et donc, c'est sa citation après deux papes sur la place des chrétiens en politique. Une de Jean-Paul II. Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique, à savoir l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Ça, c'est ce que nous dit Jean-Paul II. Quant à Benoît XVI, il dit « L'Église ne peut ni ne doit prendre en main la bataille politique pour édifier une société la plus juste possible. Elle ne peut ni ne doit se mettre à la place de l'État. » Principe de laïcité totale. Mais elle ne peut ni ne doit non plus rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Montrer Dieu à César pour que César ne se prenne pas pour Dieu. La société juste ne peut être l'œuvre de l'Église, mais elle doit être réalisée par le politique. Les représentants de l'Église laïque ne peuvent pas faire fuir le politique devant leurs responsabilités, en ayant une demande trop radicale. Et enfin, eh bien, en ce qui concerne l'homosexualité, le pape François nous dit « Il faut distinguer entre être gay, avoir cette tendance et faire du lobby. Les lobbies, tous les lobbies, attention à ceux qui font aussi du lobby même en revenant du catholicisme, les lobbies, tous les lobbies ne sont pas bons. » Dans le sens bon pour avoir, pour mettre en place le bien commun, bon pour faire une société juste. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, c'est-à-dire même s'il ne sait pas qu'il est chrétien, hein, ça, Vatican II nous le dit, vous pouvez être sauvé par vos actes, si vous ne savez pas que vous agissez en chrétien, vous avez une démarche quand même qui fait le bien commun. Alors, si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?
Merci beaucoup Frigide Barjot. Je rappelle votre livre publié aux éditions Salvator et le mouvement que vous avez créé qui s'intitule « L'avenir pour tous » et dont un site internet renseigne à la fois les positions et l'actualité. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 ou écrivez-nous par mail à contact@radioprésence.com.